Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Allez, aujourd'hui, nouveau podcast et je suis avec Jonathan. Jonathan, tu vas faire partie, j'aime bien appeler ce cercle privé, des podcasts qui sont en deux fois, c'est la deuxième fois qu'on enregistre ensemble. Jonathan, on regardait juste avant en off depuis quand datait notre précédent épisode et ça remonte un petit peu et tu m'as dit qu'il s'en était passé des choses. L'épisode avait été publié le 13 août 2022, épisode 194, il avait titré « Aventurier ». Cascade de glace et traversée à vélo. Tu avais traversé l'Europe à vélo et puis tu nous avais partagé ta passion pour l'escalade sur les cascades de glace. Je suis très content de te recevoir parce que tu m'as dit « Ah, il s'est passé plein de choses en un an et demi ». Et puis bah du coup, j'ai très hâte de découvrir tout ça. Comment vas-tu, Jonathan ?
Et super, écoute, et toi ?
Bah écoute, moi ça va, hein. Comme tu disais, là ça y est, l'hiver est quasiment en train d'arriver, ici ça caille. Moi j'aime pas trop cette période, les journées sont courtes, j'ai froid, en plus j'ai le syndrome de Raynaud là, tu vois, toutes les histoires de cascades de glace. J'ai mes doigts qui tombent, tu vois, hein, on en avait parlé. Donc l'hiver c'est une période un peu compliquée, tu vois, j'ai même décidé d'arrêter de courir l'hiver, de faire des trails l'hiver. Ouais.
Ok.
Ouais, parce que à chaque ravito, j'avais mes doigts qui se rétractent là et ça me fait super mal et du coup je prends pas de plaisir sur les trails l'hiver. C'est dommage parce qu'il y a des belles épreuves aussi l'hiver, mais
C'est une chouette expérience le trail en hiver. Alors c'est différent, mais c'est chouette à faire.
Ouais, puis il y a un côté on va sauter dans la boue entre gamins, tu vois. Il y a un petit côté retour à l'enfance aussi que j'aime bien, hein, tu vois. En plus en Bretagne, on en a des chouettes, on a des super trails. Et puis j'ai jamais fait de trail blanc aussi. Ça c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire aussi, mais peut-être que j'irai en faire un ou deux, mais c'est pas le cœur de mon activité sportive là sur ces mois à venir.
Je veux bien croire, mais c'est pour l'expérience, c'est cool à le faire au moins une fois.
Ouais, le trail blanc.
Ouais.
T'en as déjà fait ?
Ouais, des petits trails en neige. Après, j'ai jamais fait en course, mais par moi-même, moi, j'ai fait plusieurs fois sur la neige. Mais dont une fois, c'était il y a, j'irais 4-5 ans. Puis j'étais parti courir autour de Chamonix toute la journée dans la neige. Et le problème, c'est que j'ai gelé les mains. Et depuis ce jour-là, j'ai les mains super sensibles au froid aussi.
Ah, tu crois que c'est un jour en particulier, une expérience qui a fait que tu as développé une sensibilité
Ouais, parce que j'ai eu des gelures.
Ah oui, quand même. Ouais, d'accord. Donc, extrême un peu.
Ouais. Non, mais c'était mon erreur. Je suis parti avec des tout petits gants et puis j'ai vraiment passé toute la journée dehors. Et le problème, c'est que même s'il fait pas très froid, tu sais, des températures entre moins 5 et 0 degrés, ça suffit largement à créer déjà des dommages, quoi.
Alors attends, parce que gelure, tu vois, déjà quand j'ai mes doigts là qui se contractent et qui deviennent tout blancs, ça me fait super mal. Gelure, tu dois douiller quand même.
Ben t'as plusieurs, t'as vraiment les gelures degré 1, degré 2, degré 3, et t'as le stade juste avant. C'est ce que j'ai eu en fait, c'est tu viens pas vraiment toucher les chairs, mais en fait tu brûles les nerfs. Et du coup, t'as ce côté douleur, mais aussi ce côté où tu perds totalement la sensibilité. Et on va dire que c'est le degré juste avant que la vraie gelure brûle les chairs et arrive, quoi. Donc en soi, c'est pas grave. Mais par contre, les nerfs, t'as des personnes qui les récupèrent assez vite et t'as d'autres personnes qui les récupèrent jamais vraiment. Donc du coup, j'ai eu la même chose au pied. Par chance, je les récupérais assez vite. Mais les mains, dès qu'il fait froid, en fait, je regèle très vite les mains et j'ai très vite des grosses douleurs.
Putain, c'est quand même handicapant ça pour quelqu'un comme toi qui aime les aventures dans le froid.
Ouais, mais écoute, j'ai appris à bien le gérer. Alors quand je vais sur des petites aventures à la journée ou quand je vais courir là en hiver, je fais pas vraiment attention parce que je peux pas prendre des gros gants ni rien. Mais par contre, quand je suis vraiment en expé, je fais attention, j'ai des grosses moufles et puis je me connais, du coup maintenant j'arrive à bien gérer l'effort et à gérer ce côté un petit peu handicapant, et au final c'est pas plus un souci que ça quoi. J'ai juste appris à le gérer, à savoir le repérer et à le récupérer assez vite.
Et en fait, tu vois, j'ai remarqué un truc, c'est que c'est souvent, enfin c'est tout le temps même, dans les moments où je vais être le plus inactif, tu vois, par exemple, là, en ce moment, je suis à fond dans le bois, là, parce qu'il y a eu la tempête chez nous, là, et puis bah, y a des arbres qui sont tombés partout, là, et j'en profite pour faire un peu de bois, là, pour l'hiver dans 2-3 ans, et en fait, pendant que je suis en train de couper, tu vois, je suis actif et tout, il n'y a pas de problème, mais alors, par contre, dès que je m'arrête, c'est là que ça vient. Et tu remarques la même chose, toi ?
Non, parce que des fois je peux être. Enfin après, tu vois, quand je vais courir, les mains sont pas vraiment actives, mais je peux transpirer, avoir chaud partout, mais avoir les mains où j'arrive pas à les réchauffer, quoi. Donc non, je sais pas s'il y a ce côté actif ou pas actif. Je saurais pas te dire pour le coup ça.
Ouais, je pense qu'il y a une histoire de circulation du sang aussi qui s'accélère, et puis peut-être que les extrémités sont un peu plus irriguées. Quand tu t'arrêtes, il doit se passer un truc dans le corps, là, une rétractation des... Je sais pas, faudrait que je ressorte un cardiologue. Pour...
Mais c'est toujours en fait les extrémités où tu commences à avoir froid en premier, parce que ben, le cœur va chercher à alimenter les organes vitaux, et en fait les extrémités, les côtés périphériques, c'est pas important pour le cœur, donc il irrigue beaucoup moins. C'est pour ça que tu attrapes froid en premier aux pieds et aux mains. C'est pour ça que des fois, plutôt que de chercher à avoir plus de gants, plus de couches ou quoi, ben en fait, faut juste garder en mouvement tout le corps. Et en fait, si t'as pas froid au corps, ben en général, les extrémités voient bien. Donc plutôt que mettre une autre paire de gants, vaut mieux peut-être ajouter une veste ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça. Souvent, même on voit souvent des gens qui sont. Ça, c'est un truc, tu vois, je comprenais pas sur les. Quand j'ai commencé la course à pied, je voyais des coureurs qui avaient débardeur manchette. Tu vois. Et tu vois, il y avait l'épaule, elle était nue, tu vois. Donc, et tu vois, débardeur manchette. Je comprenais pas le principe, et débardeur manchette gants, quoi. Et en fait, je pense qu'il doit y avoir un truc dans cet esprit-là, quoi, de réchauffer les avant-bras, les bras, pour limiter les souffrances au niveau des mains pour ces coureurs-là qui doivent avoir froid aux mains assez vite. Je sais pas.
Ouais, puis tu sais, t'as toujours l'artère qui passe au niveau de sous le bras, au niveau de l'humérus, si je dis pas de bêtises.
Oui.
Donc du coup, si tu maintiens cette part au chaud, ça te protège indirectement, ouais, je pense.
Bon, bah du coup, tu vois, on est parti là, ça fait 7 minutes direct dans la conversation. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour tous ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 1 qu'on a fait ensemble?
Ouais, bah, et puis depuis, il y a eu un petit peu de changement. Mais moi, c'est Jonathan, j'ai passé ma trentaine récemment, là, il y a un petit mois de ça. Et aujourd'hui, je suis aventurier à temps plein. Donc, je me suis vraiment lancé là-dedans. C'était un projet que j'avais depuis quelques années, que j'avais préparé. Et on va dire que cette aventure à vélo que j'avais fait par le passé m'avait gentiment amené sur cette piste-là. Et aujourd'hui, ben, j'ai monté mon entreprise. Donc, je fais ça avec ma copine. On s'est tous les deux lancés dedans. On a quitté notre boulot. On est vraiment là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, le but, c'est de faire des aventures, des expéditions autour du monde sur différents... biotope, donc le polaire, les montagnes. On a plusieurs projets avec aussi tout ce qui est kayak, vélo, différentes activités. Et derrière ça, c'est de proposer des conférences sur tout ce qui est sujet type se dépasser, sortir de sa zone de confort, rêver grand, le plaisir, tout ce genre de topics qui sont qu'on retrouve et dans le milieu de l'aventure, et dans le milieu soit professionnel, soit personnel, et d'organiser aussi de temps en temps quelques petits stages outdoor.
Trop bien. Eh ben, écoute, là, je crois que rien qu'avec ça, on a déjà pas mal de sujets de conversation, parce que c'est un vrai sujet, tu vois, tout ça, là, t'as dit un truc qui a fait tic. J'ai quitté mon boulot, mais en fait, t'as juste changé de boulot, parce que c'est un vrai travail d'être à plein temps, et souvent, on a l'impression que, oh, il est aventurier, il se promène sur son vélo et puis c'est tout quoi. Comment c'est concrètement le passage à l'action et parce que tu dois souvent avoir, tu vois, moi je l'ai encore hein, alors que j'ai un métier qui maintenant me fait vivre depuis 2 ans et je l'ai encore ces gens qui me disent mais de quoi tu vis, tu vois. Ça, c'est cool, mais t'arrives à te dégager un salaire. Bah oui, mais quand même depuis 2 ans donc oui. Et tu dois toi aussi avoir, ouais c'est bon, il est en train de se promener ou sur ses cascades de glace ou sur son vélo. Tu vois, c'est quoi c'est quoi ta vie concrètement?
Ouais, c'est, on voit pas, comme tu dis, en fait, les gens pensent qu'une aventure, un aventurier, en fait, il a tout gratuit, que c'est la belle vie, qu'il fait des voyages, des aventures et que c'est plaisir. Mais en fait, on est très, très loin de ça. Alors, je m'en doutais, bien sûr, quand je me suis lancé là-dedans. Mais de m'être lancé dedans, j'en ai découvert encore plus. Et clairement, c'est pas un job facile. Et typiquement, j'aime bien cet exemple de l'iceberg. En fait, l'iceberg, on voit 20% de la partie émergée et 80%, c'est la partie émergée qu'on voit pas. Et en fait, l'aventurier, c'est pareil. L'aventure, en fait, c'est même moins que 20%. Et derrière ça, il y a un travail qui est énorme. Alors, c'est super intéressant hein, parce qu'en fait, t'es pas que aventurier. T'es aventurier, mais t'es aussi préparateur physique, tu dois être préparateur mental, tu dois être bon en nutrition, tu dois être bon en logistique, tu dois être bon en com, bon en marketing. Et en fait, tu dois vraiment toucher à tout. Et du coup, ça rend le travail qui est super intéressant. Mais typiquement, aujourd'hui, je passe plus de temps à l'ordinateur à monter le projet, à travailler sur l'avant, après expédition, sur les choses à côté, que vraiment à avoir le temps de pouvoir m'entraîner et à faire des aventures.
Et alors, tu vois, une fois que tu as monté ton projet, tu dois aller démarcher, faire de la prospection pour aller chercher des partenaires, des financements. Comment tu gères le fait de te prendre des portes, de te prendre des murs par des personnes qui soit n'adhèrent pas à ton projet, soit ne te répondent même pas, parce que finalement, tu dois en prendre un paquet et puis ça doit être vite décourageant au début.
Ouais, mais je le vois pas comme ça, parce que pour moi, il n'y a jamais rien de négatif. Et les choses arrivent toujours pour une bonne raison. Alors oui, effectivement, tu envoies des tas de demandes. Et sur la quantité de demandes, il y a beaucoup qui ne répondent pas. Et ceux qui répondent, souvent, c'est des noms. Mais en fait, le nom, c'est pas une finalité. Et du coup, en fait, tu arrives toujours à rebondir, à créer de nouveaux projets, à relancer, à trouver de la motivation dans ça. Et en fait, c'est ces moments, c'est des vagues, en fait. Il y a des moments, tu es sur l'eau de la vague, des moments, tu es dans le creux. Et en fait, tu sais toujours que tu vas reprendre une autre vague derrière. Donc, au final, tu n'arrives pas vraiment à t'essouffler. Et puis, tu as toujours ce bon entrain pour aller chercher ça. Mais je dirais que les noms, en fait, ils arrivent si tu prends juste le nom et puis OK, ben c'est fini. Et dans ce milieu, en fait, si tu veux que ça fonctionne, il faut vraiment pousser les portes. Et il faut vraiment pousser. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi.
Moi, j'aime bien la technique, j'avais entendu, je sais plus où j'ai entendu ça, c'est la technique du pitbull. Tant que la personne ne t'a pas donné un autre nom à qui aller accrocher, à qui aller mordre, eh ben, tu le lâches pas. Et, dès qu'elle t'a donné un autre nom vers qui, une autre personne vers qui aller, hop, tu la lâches et puis bon, tu passes à autre chose. Mais c'est vrai qu'il faut avoir le sacrément de la persévérance quand même hein, et puis croire en son projet à fond.
Ouais, et il faut vraiment avoir ça, surtout quand tu commences de zéro en fait. Quand tu commences que t'as soit un passif, soit des connaissances, soit quelque chose, ben tu y vas un petit peu plus facilement. Mais quand tu démarres de zéro, que t'as rien et que t'es rien, il faut vraiment faire ta place. Et du coup, effectivement, je crois que t'as mis le doigt sur le mot qui résume tout, c'est la persévérance. Et en fait, ouais, il faut en avoir à 100%, parce que je te donne un exemple par rapport à ce que tu me dis, là, la technique du pitbull. On a un de nos sponsors, au début, on les a contactés, alors on a mis beaucoup de temps à papoter, à réussir à entrer en contact avec eux. Puis une fois que tout s'est fait, bah c'était non, votre projet est chouette, mais voilà, on peut pas vous soutenir. Puis ok, bon, pas de souci, je prends le nom, mais je reviens dans 2-3 mois. Et 2-3 mois après, je reviens et j'y vais franco. Franchement, je pose les cartes sur la table, je leur explique toute la situation. Ouais, écoutez, on vous a dit non, mais on apprécie que vous reveniez. Et elle dit, ouais, mais on revient, on va pas lâcher. Donc, bon, ok, ben, faites-moi un mail, on refait un mail, on réécrit, on passe du temps au téléphone. Tu vois qu'ils s'ouvrent un petit peu au projet. Et puis, ils nous disent, écoutez, clairement, ben, faites-nous une, en gros, une lettre de motivation pour nous expliquer pourquoi vous, parce que vous partez vraiment de zéro. Et vous nous dites, vous voulez être aventurier professionnel. Ok, mais vous l'êtes pas. Donc, ben, expliquez-nous un peu où est-ce que vous voulez aller. Vous avez pas d'expérience. Comment vous... Et on a fait tout ça. On a bataillé. On a trouvé les justes mots. Et au final, ben aujourd'hui, on travaille avec eux et ils sont super contents qu'on soit leur ambassadeur.
Hmm. C'est qui les marques ou les partenaires, les entreprises qui financent ce genre de projet? Parce que il doit y avoir un profil un peu de marque ou finalement c'est assez divers.
Non, c'est vraiment divers. Après, aujourd'hui, on travaille pas sur le sponsoring financier. On travaille juste avec des marques d'équipement pour nos aventures. Et je pense qu'il faut juste être authentique, faut être soi-même en fait. Et j'attache une importance particulière à toujours dire la vérité. Et donc, du coup, faut pas avoir peur de jouer. Carte blanche de dire qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. Et puis je pense que c'est le mieux, l'authenticité. Il y aura rien de mieux pour avoir quelque chose dans la vie.
Et alors jour zéro, tu te dis tiens, bon ça y est, ton projet il est passé. Enfin du coup c'est jour J plus 1, on va dire. Ça y est, t'as fini un projet. Qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que t'en as tout de suite un que t'as envie de mettre en place? Est-ce que t'as déjà toi une liste de, je sais pas, une to-do de trucs que t'aimerais faire dans ta vie? Et quelle est ta démarche à partir de ce moment-là? Comment est-ce que tu t'y prends pour est-ce que t'as un calendrier avec des tâches régulières que tu as identifiées et qui sont à respecter pour avoir un espèce de process jusqu'à ce que le nouveau projet se fasse?
Ouais, le travail, il est énorme. On est encore en train d'apprendre parce qu'en soi, on est tout nouveau dans le milieu. Ça fait un petit peu plus d'un an qu'on s'est lancé. Donc, on prend nos marques, on découvre. Mais ouais, l'avant-projet, il est assez gros parce que bref, il y a tout qu'à mettre en place. Déjà, il faut avoir l'idée, trouver le projet que tu veux faire. Bon, ça, on regorge d'idées. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on n'aura pas assez d'une vie pour tout faire. Mais du coup, il faut monter tout ce projet avec tous les tenants et les aboutissants. Après, il y a l'aventure en elle-même et puis l'après-aventure qui est aussi monstrueux. Typiquement, on a fini notre dernière aventure début octobre. Et puis là, on est milieu novembre et on est toujours en train de bosser dessus, quoi. Ça prend un temps assez énorme de bien faire l'après-expédition avec tout ce qui est remise matérielle, tout ça, et puis vraiment à finir à dire ok, bah ce projet maintenant ça y est, il est clôturé et puis je peux attaquer un nouveau projet.
Donc tu disais que tes partenaires finalement c'est des partenaires de logistique, d'équipement, et si ce qui te sert à vivre, à avoir du cash, c'est toutes les petites prestations que tu vas faire, pas petites, c'est un peu péjoratif ce que je dis, toutes les prestations que tu vas faire à côté.
Ouais, exactement. Faut se dire qu'aujourd'hui, d'avoir des partenaires, des sponsors, c'est pas ce qui te permet de faire tes aventures, mais c'est pas ce qui te permet d'en vivre. Et du coup, ben, en vivre, pour ça, il faut travailler comme tout le monde. Et aujourd'hui, ben, on se lance, nous, donc on n'en vit pas encore. On vit sur nos économies. L'idée, ben, voilà, c'est d'arriver à commencer à vendre ses prestations, ses services, pour pouvoir ben, en vivre correctement.
Ah, tu vois, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai un copain, Thomas Billot, qui écoutera cet épisode, j'en suis sûr, donc on lui fait une bise. Et il est en plein dedans en ce moment-là. Il a pour projet de faire la GTJ sous cette forme, enfin la Grande Traversée du Jura, à cheval, à ski, à vélo, à pied, à ski de fond, ski de rando, enfin il a tout ça en un an. Donc forcément, il est en plein dedans dans cette recherche de partenaires, de voilà. Et c'est hyper intéressant de savoir bah, finalement comment tu t'y prends et qu'est-ce que tu fais pour y arriver, parce que il y en a plein en fait des aventuriers qui ont envie de se lancer dans des défis comme ça. T'as pas toujours besoin en fait de faire des trucs on ne te demande pas de traverser l'Amazonie à la nage, quoi. L'Amazone plutôt. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui s'y retrouveront dans ce que tu fais.
Pour rebondir par rapport à ce que tu dis, tu résumes très bien la situation parce que nous, on se considère pas comme des aventuriers extrêmes. Je prends le cas de Mike Horn ou de Börje Ousland où ils partent sur des traversées du pôle Nord ou de l'Amazonie. On n'est pas ce genre d'aventurier extrême. On est monsieur, madame, tout le monde. La différence en soi, c'est que nous, on a juste décidé d'en faire notre métier, mais on fait des aventures. Alors, c'est des petites aventures en comparaison d'autres grands aventuriers. C'est aussi des grandes aventures en comparaison de quelqu'un qui va juste faire une randonnée. Mais l'idée, voilà, c'est pas toujours d'être le meilleur dans son domaine. C'est juste d'être authentique et de faire ce qu'on aime faire. Typiquement, je pense pas qu'on a besoin d'être le meilleur pour ça. C'est juste de donner un message. Nous, le message qu'on veut vraiment donner, c'est vraiment d'inspirer les gens à réaliser leurs rêves et à se lancer dans la vie qu'ils désirent. Et pour ça, ben, on fait des aventures. C'était notre rêve. On a pris les devants. On a eu le courage de se lancer là-dedans. Et en fait, c'est ce que tout le monde peut faire. C'est juste avoir ses rêves et en fait se lancer dedans. Bien sûr, ça fait peur. Bien sûr, c'est des sacrifices. Mais au final, tout le monde peut le faire. Et c'est vraiment ce message qu'on veut donner en tant qu'aventurier. Et le deuxième message aussi en tant qu'aventurier, parce que c'est notre devoir, c'est de prendre, de protéger notre planète au mieux qu'on puisse. Et derrière, c'est aussi de donner ce message d'espoir qu'on peut faire quelque chose pour notre planète, que notre planète est belle, et d'inspirer tout le monde à la protéger, quoi.
Et pourquoi les gens n'osent pas, selon toi?
On se laisse vite prendre. Si on prend typiquement nos modèles, le modèle sociétal qu'on a aujourd'hui, c'est en gros la trentaine, il faut qu'on ait une carrière, il faut qu'on ait un appartement ou une maison achetée, qu'on soit en couple, soit qu'on ait le projet d'enfant ou au moins qu'on ait l'animal de compagnie pour démarrer cette vie. Et aujourd'hui, c'est tellement ancré dans nos sociétés que si t'as pas ça, tu vas prendre des remarques. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Ah, mais t'es pas normal. Ah, mais c'est bizarre. Ah, mais tu devrais te poser. Et au final, faut pas qu'on monte nos vies par rapport aux autres ou par rapport au modèle. Faut juste qu'on crée la vie qui nous corresponde, qu'on veut. Mais aujourd'hui, la pression est telle que c'est dur de se lancer, ça fait peur. Et puis c'est toujours quelque chose de difficile quand t'as un boulot, t'as la sécurité, tu sais que t'as ton salaire à la fin du mois qui tombe, tu sais que t'as ta petite vie où t'as pas beaucoup de danger. Et puis on est confortable dans cette zone de confort et ça fait peur d'en sortir. Et du coup, c'est ça qui empêche, je pense, les gens, parce que tout le monde rêve, mais la différence, c'est qu'il y en a quelques-uns qui réalisent ces rêves et d'autres qui juste passent leur vie à rêver. Et nous, c'est ce qu'on veut, on veut pousser les gens à montrer qu'en fait, tout le monde peut rêver, mais tout le monde peut réaliser ses rêves. Et alors après, il y a des rêves plus, on n'a pas besoin de dire qu'on veut monter l'Everest. Si son rêve, c'est juste dire, j'ai jamais fait de bivouac seul, mon rêve, c'est de partir faire une nuit en bivouac seul. Si on peut réaliser ce rêve et que nous, on peut inspirer certaines personnes à dire « Ouais, j'en suis capable, je vais aller le faire. » C'est l'idéal.
Et tu vois, l'autre jour, j'étais à un dîner justement après avoir bûcheronné chez un copain. Ça va revenir souvent, ce sujet du bois là, dans ma vie en ce moment. Je discutais avec une nouvelle rencontre qui avait son copain qui nous avait filé un coup de main aussi. Et puis on échangeait et elle nous a partagé qu'elle était sur un nouveau projet pro. Elle a lancé une boutique en ligne de revente d'équipements de trucs pour les bébés. Ça s'appelle Coccinelle et Coquelicot. D'ailleurs, je vais le nommer comme ça si jamais vous voulez aller voir. Et elle partageait un petit reel sur l'envie d'avoir au moins 100 abonnés. Et puis en fait, tu vois, c'est tout nouveau son truc. Et en fait, je lui disais que moi je suis à 7005 maintenant, un truc comme ça sur Insta. Et en fait, quand t'as 100, t'en veux 200. Quand t'as 200, t'en veux 500. Quand t'en as 500, t'en veux 1000. Quand t'as 1000, tu veux 2000. Ainsi de suite. En fait, ça s'arrête jamais. Et ça, c'est exactement pareil que pour les petites tâches comme ça du quotidien qui te font peur. Au début, ça te fait peur. À la fin, ça devient un truc un peu normal où tu te dis, oh, en fait, je me mettais la pression pour pas grand-chose. Et tu vois, j'ai un autre exemple. J'ai quelqu'un là dans une autre formation que j'ai fait. qui avait peur de créer son auto-entreprise. J'ai dit, attends, mais si tu délègues ça, ça coûte 50 balles à quelqu'un qui va te le faire, ça prend en moins d'une semaine, c'est bon, t'as ta structure, tu commences, tu te lances, ça y est, c'est parti, t'y vas, quoi. Qu'est-ce que t'as besoin de te prendre la tête pendant 3 mois à te demander si tu vas le faire ou pas le faire? Fais-le! Et puis, au pire, tu te plantes. C'est pas grave. On verra ce qui se passe derrière. Et tu vois, j'ai de plus en plus de mal à comprendre et à savoir pourquoi les gens n'osent pas, quoi. Allez-y! Faites! À passer à l'action. Et c'est du coup, enfin, c'est un sujet, là, tu vois, que t'abordes et qui est pour moi hyper important, hyper central. Toutes les personnes qui hésitent à aller faire tel ou tel try, mais vas-y! Plante-toi, abandonne, c'est pas grave. Tu sais pourquoi t'auras abandonné, tu sais comment il faudra revenir plus fort. Et c'est un vrai sujet, ça, qui en ce moment m'intrigue.
Mais il y a quelque chose qui est simple, c'est le pire, c'est quoi? Et en fait, une fois que t'as trouvé ton pire, bah, tu sais qu'au final, il est pas bien méchant. Typiquement, quelqu'un qui veut, je sais pas, je te donne un exemple, qui rêve d'aller rencontrer cette personne. Oh, mais je rêve, mais j'arriverai jamais. Ben, ose lui écrire. Au pire, qu'est-ce que tu vas risquer? De pas recevoir une réponse ou alors de recevoir un non? Et au mieux, tu risques de recevoir, ah, bah, allez, viens, on peut se rencontrer. Donc, c'est, en fait, faut oser. J'aime bien, il y a cette phrase de Rémi Camus qui prend, c'est oser, c'est gagner. Et en fait, ça résume tout. C'est qu'au pire, dans tous les cas, on aura toujours appris quelque chose et on aura eu le courage de le faire et on sera fier de nous. En fait, il n'y a jamais de risque à tenter, quoi. Et aujourd'hui, on est safe dans nos sociétés. Du coup, on aura toujours une porte de sortie, toujours une route de secours, un échappatoire. Et au final, comme tu dis, il faut se lancer, il faut oser. Et c'est le mieux. Mais si on a le propre de l'humain, on l'a perdu un petit peu, mais c'est l'adaptabilité. Et en fait, on a une zone de confort qui est définie. Et dès qu'on va sortir de cette zone de confort, bien sûr, c'est inconfortable, mais on va s'adapter. Et du coup, cette zone de confort va s'agrandir un peu plus. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'on va sortir, oui, on va devoir s'adapter, ça va demander un effort, mais au final, cette zone de confort va s'agrandir. Et on peut partir d'une zone de confort pour imaginer qui fait 10 cm, et puis à la fin, elle en fait 4 mètres, parce qu'à chaque fois, on l'a adapté. Et comme tu dis, en fait, faut se lancer, et puis ça va passer.
Et puis en fait, une fois que t'as pris conscience que tu es dans cette première fois qui te fait peur, eh ben tous les autres projets qui vont venir, tu vas te dire ah j'y vais quand même parce que là je suis dans cette première fois là qui m'a fait peur tant de fois auparavant sur d'autres sujets, d'autres projets que j'avais, d'autres trucs que je repoussais de faire et une fois que je l'aurai fait, je serai plus dans cette première fois et ce sera beaucoup plus confortable pour moi. Donc là, je reconnais cette situation, je suis dans cette première fois, ça me fait peur, ça me met inconfortable, mais faut que j'y aille. Et puis une fois que ce sera fait, eh ben ce sera facile pour moi sur les suivantes. Donc c'est un vrai sujet. Moi j'ai envie que les gens allez-y, ouais. Quoi.
Mais c'est vraiment notre cœur de métier. En soi, on veut vraiment, inspirer les gens, leur montrer, regardez, c'est possible. On est comme vous. On est monsieur et madame tout le monde. Et puis, on réussit à faire ce qu'on voulait faire, ce qu'on rêvait de faire. Et en fait, c'est vraiment de d'insuffler ce message, de pousser tout un chacun à juste réaliser le rêve, que ce soit monter l'Everest, que ce soit, comme tu disais, faire un trail, que ce soit juste d'aller courir 2 km, que ce soit de sortir faire une randonnée, que ce soit de changer de job, peu importe, mais juste réaliser ce qui fait rêver.
Alors du coup, tu disais auparavant, au dernier épisode qu'on a fait, tu réalisais tes aventures seules. Est-ce que maintenant vous êtes tous les deux à les faire ou vous êtes tous les deux dans le projet et tu es seul à le faire? Comment ça se passe?
Non, du coup, à la fin de cette aventure que j'avais fait en solitaire, c'était là que j'avais rencontré Carrie. C'est pour ça que je suis resté en Norvège finalement. Et au final, la vie fait bien les choses. Carrie était aussi une passionnée d'outdoor. Et quand je lui ai exposé mon projet de me dire que je voulais me lancer comme aventurier professionnel, elle m'a dit tiens, moi aussi je rêve de faire ça, j'adorerais, donc moi aussi je vais quitter mon boulot et puis viens, on se lance à deux dans le projet. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a tous les deux quitté notre boulot, on a monté notre compagnie. Donc notre compagnie c'est Pio Kayak. Et Pio Kayak, on a cherché longtemps pour trouver ce nom, on voulait vraiment quelque chose qui nous représentait. Et Pio Kayak, ça vient du langage inuit, ça désigne l'ours polaire. Et littéralement, ça veut dire celui qui erre sans fin. Donc, on a trouvé ce message super joli. Notre logo, d'ailleurs, c'est un petit ours. Puis ben à la fois ça désigne ce côté puissance, endurance et aussi la fragilité d'un monde qu'on veut préserver. Et du coup, on s'est vraiment lancé à fond là-dedans, donc on travaille tous les deux. Donc on essaie de couper au mieux, elle s'occupe d'une partie, je m'occupe de l'autre, et au final on fait nos aventures ensemble. Alors certaines aventures je ferai peut-être en solitaire, hein, et peut-être qu'elle en fera, elle voudra aussi en faire en solitaire, on sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais voilà, on réalise nos aventures ensemble, et c'est aussi un peu ce qui fait notre différence, c'est qu'on est du coup un couple d'aventuriers.
Ah, je vois une photo de vous deux là, t'as la barbe remplie de glace et elle les cheveux, t'as l'impression qu'ils peuvent se casser rien qu'à les plier, ses cheveux tout blancs.
Moins 36 degrés il faisait sur cette photo.
Oh là là, moins 36, joli. Oh là, quel enfer. alors comment vous gérez ce quotidien à deux, enfin pendant une aventure, parce que quand tu es seul, bon, il y a des moments qui doivent être difficiles, faut prendre sur toi. À deux, ça amène une dimension tout de suite un petit peu différente. Comment est-ce que vous gérez ces moments?
Ouais, c'est vraiment, il y a du bon et du moins bon partout. L'avantage quand t'es en solitaire, c'est que tu penses qu'à toi. Du coup, quand t'es deux, faut que tu t'adaptes à l'autre parce que du coup, t'es pas tout seul à prendre les décisions. Mais en même temps, quand t'as un moment de mou, tu sais que t'as l'autre sur lequel tu peux te reposer un petit peu. Puis tu divises un petit peu le travail, donc tu gagnes en énergie. Donc au final, c'est un équilibre à trouver. Après, l'avantage, c'est que dans la vie de tous les jours, on est ensemble, donc du coup, ça se fait assez facilement. C'est pas comme deux copains qui vont partir en expérience ensemble et qu'il faut qu'ils s'adaptent l'un à l'autre. On est déjà adapté l'un à l'autre, donc du coup ça se fait assez facilement. Et puis on trouve nos marques sans avoir à communiquer trop. Puis on essaie de découper les tâches pour être efficace. Et au final on a trouvé un bon rythme sur toutes les aventures, ça s'est bien passé. Et puis maintenant ça roule.
Carrie est norvégienne.
Ouais, exactement. Ouais.
Et du coup la barrière de la langue, vous avez.
Alors moi je parle pas norvégien, elle apprend le français, elle apprend vite par contre, mais sinon on fait tout en anglais.
Ah ouais, vous, ok, ça marche. Je me posais la question, comment ils font pour...
okay, ouais, non, c'est l'anglais, alors quand on s'est rencontrés, je me débrouillais en anglais, et on va dire que je l'ai amélioré encore plus aujourd'hui, parce qu'elle était déjà bilingue, et puis du coup aujourd'hui voilà, on a un anglais, et puis on travaille aussi en anglais. Parce que du coup tous nos contacts on les fait en anglais, on a donné une petite conférence déjà en anglais, donc ouais, l'anglais est devenu notre langue de base, quoi.
Vous êtes bilingue, quoi.
Oh, elle oui, moi on va dire je suis content de mon anglais, j'ai un bon anglais parce que quand je suis arrivé en Norvège, de toute façon j'ai bossé pendant 8 mois en anglais, je fais tous mes mails en anglais, mes coups de téléphone en anglais, mais les nuances de la langue, il faut soit être anglais, soit vivre en Angleterre, si ça reste la Norvège. Donc je suis bilingue pour pouvoir parler de tout et de rien. Mais on va dire que les nuances de la langue, ça j'apprendrai avec le temps. Ouais.
Alors, chers auditeurs, vous irez voir, hein, mais vous deux, vous êtes un couple de beaux gosses, vraiment. tu crois que ça aide, ça?
Je sais pas, franchement, je me suis jamais considéré tel. J'ai jamais joué du coup avec mon physique, donc je pense pas que.
Ouais, si t'étais le stéréotype du beau gosse.
gentil.
Il est humble. Vous irez voir sur Insta. Vous êtes tous les deux, vous êtes hyper beaux là. Attends, il y a des photos magnifiques de vous. Et tu crois pas que ça joue un peu ça?
Franchement, je sais pas et je m'amuserai pas à jouer là-dessus parce que c'est jamais quelque chose que j'ai pris en considération. Donc non, je pense pas. Je pense que on a vraiment joué la carte de l'honnêteté, de l'authenticité, à dire qui on était. Et je pense que notre histoire touche les gens, que les gens se reconnaissent aussi à travers nous. Et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne, ouais.
Écoute, très cool tout ça. En tout cas, je vous souhaite plein d'aventures à deux, comme ça va être génial de pouvoir partager ensemble sa passion. D'ailleurs, tu dirais que c'est grâce ou à cause d'ailleurs de toi qu'elle a osé se lancer dans l'aventure, ou elle était déjà dans cette démarche avant et elle en avait déjà fait avant?
Non, elle en avait pas fait, non. Alors, les Norvégiens de base sont des gens qui aiment l'outdoor, qui randonnent beaucoup, qui sont habitués à être dehors, quelles que soient les conditions météo. on va dire que c'est inscrit dans leur gène, mais non, elle avait jamais fait, elle a beaucoup voyagé seule en voyage, mais elle avait jamais fait d'aventure, et du coup, ben, elle s'est lancée, je lui ai appris, je continue de lui apprendre, elle prend aussi son expérience de son côté, et puis après, non, elle devient compétente, mais elle arrive aussi à me surprendre, typiquement sur notre dernière aventure à vélo. Ouais, j'ai été impressionné de ce qu'elle a pu faire, je m'attendais pas à ce qu'elle soit capable de faire autant, ouais.
C'est-à-dire en résistance, en endurance, en...
Ouais, bah c'est quelqu'un qui avait jamais fait de vélo. Hein. Alors du vélo, je veux dire pour la vie de tous les jours, tu sais, avec le vélo ville pour faire les courses, ce genre de choses. Mais elle avait jamais fait de cyclisme. Et on s'est lancé sur cette aventure vélo en gravel. Et on a reçu le gravel le mois qu'a précédé l'aventure. Donc à tout casser, elle a fait, je pense, 300 kilomètres avant qu'on se lance sur cette aventure de 3000 bornes. Et puis, bah, elle a claqué, ouais, les 3000 bornes en 35 jours, en autonomie, en pédalant tous les jours entre 80 et 110 bornes. Donc, ouais, non, assez impressionné, ouais.
Ah ouais, donc, ouais, elle a la caisse quand même, hein. Quand
ouais.
Même.
Ouais, ouais.
Putain, belle perf. Et alors,
comment, excuse-moi, je te coupe, mais on parlait de ça, tu vois, de se lancer. Je pense que Carrie, pour le coup, c'est le parfait exemple. Parce qu'elle a jamais fait de cyclisme. Elle avait peur quand je lui ai proposé ce projet, puis c'était un projet ambitieux parce que le projet c'était 3000 bornes en 35 jours en totale autonomie. Donc on avait nos sacoches, on avait un peu moins de 50 litres sur les vélos. Pour 35 jours, 50 litres c'est rien, sachant qu'il faut l'équipement vélo, la nourriture, tout ça. On est parti juste avec hamac et tarpe. Donc pas de tente, on n'avait pas la place pour la tente, donc vraiment confort rudimentaire, en autonomie, en Scandinavie.
Qu'est-ce que c'est un tarp pour ceux qui savent pas?
C'est juste une petite bâche, donc ça permet soit de le mettre par-dessus le hamac pour faire un toit quand il pleut, soit quand on n'avait pas d'arbre, on retournait les vélos et puis en fait on mettait la bâche sur les vélos, ça faisait un espèce de triangle, on se glissait chacun d'un côté du vélo et ça nous faisait une tente. Et on est parti du coup en Scandinavie en automne, donc on a eu un rang de température entre moins 5 à plus 20 degrés, et sans vraiment d'équipement chaud, donc ouais, c'est lancé dans un projet qui était super conséquent, sans expérience de vélo, elle avait très peur de pas pouvoir réussir et de le faire, et au final elle l'a fait, et elle l'a fait... aux les mains, donc je pense que c'est le plus beau message qu'on peut donner, c'est voilà, en fait, faut pas avoir peur de se lancer, faut pas attendre d'avoir toutes les clés, comme dit Mike Horn, il a une phrase du genre, si t'attends toutes les réponses, tu te mets jamais en marche, en fait, faut avoir 5% des réponses, et le reste des réponses arrive quand on commence la marche, et ça résume typiquement la situation, donc Carrie a osé se lancer, sans expérience, sans savoir si elle en serait capable, mais elle s'est lancée. Et au final, ben, elle a eu la bonne surprise de pouvoir le faire et haut la main.
Mmh. Ouais, j'ai mon ami Alain Cailleux aussi qui dit ça. Les réponses sont sur le chemin. Engagez-vous.
Ouais, engagez-vous.
Engagez-vous. Ça, c'est sa grande phrase. Engagez-vous.
Comme Obélix, engagez-vous qu'il disait.
Exactement. C'est peut-être ça. Ça ref. Ça vient peut-être de là. Je sais pas. Bon, alors, du coup, c'est quoi la prochaine? Parce que. Aventure, dis-moi tout ça, j'ai envie de savoir maintenant.
Ah, prochaine aventure, en résumé, parce qu'il y a une grosse surprise sur cette aventure qui est arrivée, mais qu'on peut pas encore dévoiler aujourd'hui.
Tu pourras la dévoiler quand? Parce que peut-être que je peux repousser un petit peu l'épisode, hein, la publication comme ça.
Ah, je ne sais pas, c'est indépendant de nous, la grosse annonce. Mais je pense que pour le coup, suivez-nous parce que vous allez la voir et c'est une grosse grosse surprise qui va arriver. Mais en gros, l'expédition, ça va être la traversée du Hardangervidda. C'est un plateau en Norvège. En gros, il y a deux monuments en Norvège qui sont des plateaux d'entraînement pour des expéditions arctiques plus engagées. Il y a le plateau du Finnmarksvidda qu'on a fait l'année dernière. Pour donner un petit exemple, la température record sur ce plateau, c'est moins 62 degrés. L'année dernière, c'est descendu à moins 52. Et c'est un environnement où les conditions sont aussi rudes, voire plus rudes qu'au Groenland. Donc, c'est un parfait entraînement. Et cette année, on va faire le deuxième monument où les conditions météo sont sensiblement les mêmes, un peu moins froid. Et par contre, c'est un endroit qui est très tempétueux. Et du coup, ben, on va y aller en février, à la période des tempêtes. Pour une ouais 10-15 jours, une petite quinzaine de jours pour s'entraîner en conditions alors c'est un entraînement mais c'est en soi déjà une grosse aventure Et du coup, voilà, ça va être l'XP polaire qui arrive bientôt.
Mais pourquoi? Pourquoi s'infliger ça? Pourquoi?
Oh, pour plusieurs raisons. Il y a le côté personnel, on a envie de performer, de se dépasser, de sortir de notre zone de confort. Il y a quelque chose avec le polaire, j'en avais parlé dans l'épisode précédent par rapport à la glace, il y a quelque chose de fascinant avec le froid, avec la glace, avec la neige. Et quelque chose sur lequel on est en train de travailler, c'est qu'on a envie de donner un aspect scientifique à cette aventure. Parce que pour nous, comme je te disais, en tant qu'acteur de l'outdoor, on veut vraiment prendre soin de la planète. Et du coup, on veut donner un aspect scientifique à cette aventure pour faire avancer la recherche sur le climat. Et pour donner un exemple, pour montrer à quel point la nature nous tient à cœur, on a récemment parrainé la plantation de 100 arbres, hein, parce que ça nous tient vraiment à cœur de prendre soin de cette belle planète. Et du coup, on veut donner cet aspect-là à cette aventure et ne pas faire qu'une aventure sportive, mais une aventure humaine, sportive et scientifique.
Ça se situe où les plateaux là en Norvège? Je suis en train d'essayer de regarder sur Google Maps.
Arzida, c'est vraiment tout au nord de la Norvège. C'est juste l'arrivée, en gros, elle se fait un peu sous Alta. Et Hardangervidda, c'est en plein milieu, en gros, c'est à la latitude de Bergen.
Ok, Alta, j'ai trouvé. Ça marche. Ah ouais, effectivement, c'est vraiment tout en haut. Mais ça doit être hyper beau, hein, tous ces petits fjords là.
Ouais. Incroyable, c'est un pays magnifique, mais tu parlais que tu te sens vite, pas dépressif, mais que tu ressens ce manque d'humidité, ce froid venir. Ben là, typiquement, la latitude où on est, il fait jour à 8h30 le matin, et il fait nuit à 3h, 3h30, et les journées vont aller encore plus en se raccourcissant, et les températures en ce moment, on est entre moins 5 et moins 10.
Putain, mais ils vivent toute l'année comme ça, les gens là-bas.
Ouais,
vraiment.
C'est rude. Moi, si j'aime ça, le physique n'est pas habitué. Je reste un mec du sud de la France et du sud-ouest. Et du coup, le corps est quand même habitué à la luminosité. Et ici, c'est physiquement, même si j'aime ça, c'est rude.
Ouais, je pense que c'est un peu comme pour beaucoup de situations, quoi. Faut y être né pour pouvoir le supporter comme ça au quotidien, quoi.
Ouais, c'est difficile. Mais à l'inverse, l'été, il y a le soleil de minuit et c'est chouette.
C'est quoi le soleil de minuit?
Il fait jamais nuit. Il fait jour à 24. Et ça, c'est assez fantastique. Et puis même la nuit polaire, quand il fait toujours nuit. Alors, il fait jamais nuit noire toute la journée. T'as quand même 2-3 heures, c'est du crépuscule. Mais tu vois pas le soleil.
Là, je suis en train de me balader dans les rues là avec Google Maps. En fait, on pourrait penser que c'est un quartier de chez nous, toit sans ardoise.
Ouais. Les maisons sont en bois, par contre, toutes les maisons.
Ouais. Ouais, ça a l'air d'être joli comme endroit.
Ça reste un pays incroyable. C'est vraiment une destination, la Scandinavie, à faire une fois dans sa vie, parce que c'est vraiment beau.
Ah, tu vois, j'ai des amis là qui ont eux, c'est des passionnés de voyage en van. Ils ont un compte Insta là. Je fais beaucoup de pubs pour mes potes en Insta. C'est la Van Family et ils sont vraiment tombés amoureux de cet endroit, de la Norvège, de la Suède, tous ces pays là. Revenons sur ton aventure. Quelles sont les choses difficiles auxquelles vous attendez de traverser pendant cette aventure?
Oh, le vent, ça va être un paramètre très difficile à gérer, parce que les vents peuvent être très forts, donc le ressenti du froid, le facteur éolien, un moins zéro avec un vent peut se faire ressentir moins 20, donc du coup ça peut faire du très très froid. Et puis ça complique tout aussi pour l'avancer, à gérer avec les équipements, les vêtements, à gérer avec la mise en place de la tente, la protection. Donc ça va être un facteur qui va être très difficile à gérer.
C'est usant le vent aussi dans les oreilles quand
ouais,
tu passes ton temps avec le vent.
Je pense que le plus dur, c'est quand t'es vraiment sur le blanc. Et que t'as les jours blancs, je pense que c'est le plus difficile à gérer mentalement, plus que le vent.
Les jours blancs, c'est
C'est quand tu fais tout blanc, il y a vraiment un contraste qui se met en place et en fait, tu n'as plus de différence entre le ciel et le sol. Et en fait, c'est blanc partout. Donc, tu es le seul point de couleur, mais du coup, tu n'as plus aucun repère sur le relief. Donc, tu ne vois pas les bosses, tu ne vois pas les trous et puis c'est très difficile à gérer.
Dangereux ?
Dangereux, ouais, aussi, ouais. Et du coup, il faut vraiment être très axé sur la, soit sur le GPS, soit sur la boussole, mais pour pas se perdre.
Tu fais comment, t'as un GPS, t'as une montre, c'est comment ton système d'orientation?
Ouais, alors je suis encore old school. J'aime bien ma carte papier et ma boussole. Mais oui, on est aussi le GPS et du coup, ben, on travaille entre les deux. L'important quand tu travailles sur carte boussole, c'est qu'il faut toujours que tu saches où t'es et le moment où t'es perdu, ben, tu mets un coup d'œil sur le GPS. Comme ça, tu peux te resituer facilement, quoi. C'est vraiment la combinaison des deux qui fait que tu restes safe.
Ouais, parce que le système carte boussole, enfin, moi, je suis très mauvais je suis plutôt bon en suivi de traces GPS, mais avec les quelques off que j'ai pu faire, mais par contre en suivi de carte, j'y connais rien. Comment est-ce que faut un repère quand même pour pouvoir te dire tiens je suis là. Si pendant plusieurs jours, imaginons t'as pas eu de repère, la carte ça devient compliqué, non?
Ben écoute, les faux, j'ai pas eu de repère, j'ai eu le GPS, mais effectivement c'est là qu'on peut s'interroger sur l'efficacité de nos ancêtres qui partaient avec juste une carte et une boussole. Et non, c'est un exercice qui est très difficile et il faut travailler pour être bon là-dessus. C'est pas quelque chose d'évident. Ouais.
Ok. Non, qu'est-ce que t'as appris pour pouvoir aller faire cette aventure? Selon toi, c'est quoi le principal apprentissage à faire, à avoir pour aller faire cette aventure? Est-ce que c'est plutôt de l'ordre de l'apprentissage matériel, savoir s'équiper, savoir gérer techniquement, mentalement? C'est quoi les principaux apprentissages pour aller faire ce genre de choses, à ton avis?
Je pense que le plus difficile, c'est la gestion du froid. Parce que physiquement, bah après, on adapte. Quelqu'un qui est super en forme, il va faire 25 km par jour. La personne qui est moins en forme, si elle en fait que 10 par jour, bah elle en fait que 10 par jour. Donc ça, en soi, ça va pas changer. Après, il faut connaître son matériel, puisque la connaissance de son matériel permet d'être efficace et rapide. Et l'efficacité et la rapidité, bah, c'est un gage de sécurité également. Et après, c'est vraiment la gestion du froid, savoir qu'il faut pas transpirer. Typiquement, un exemple qu'on ne sait pas tant qu'on n'est pas parti là-dedans, c'est qu'il faut mettre un sac plastique autour des chaussettes, parce que même par froid, même si les pieds sont froids, ben, on transpire toujours. Et le problème, si on transpire, ben, on humidifie le chausson de la chaussure, et durant la nuit, ce chausson gèle. Et du coup, le matin, on se retrouve avec une chaussure qui est complètement en glace et sur lequel, ben, on va pas réussir à réchauffer le pied. Donc, pour éviter ça, ben, on met une première paire de chaussettes assez fines et par-dessus, on met un sac plastique. On peut doubler avec une seconde grosse chaussette, pour le froid, et on met tout ça dans la chaussure. Et c'est le même dans le sac de couchage. Dans le sac de couchage, pour les températures extrêmes, on est que sur des sacs en duvet et le duvet craint l'humidité. Et durant la nuit, même s'il fait très froid, même si on n'a pas super chaud, ben on transpire toujours, notre corps dégage de l'humidité. Et cette humidité va se fixer au duvet et ça gèle. Et du coup, dès que le duvet est humide et gelé, ben il perd son pouvoir de chaleur. Donc pour pallier à ça, ben on dort dans un sac plastique à l'intérieur du sac de couchage. Et puis le matin, ben on retourne le sac de couchage, on le laisse dehors, ça gèle, on brosse, on enlève la glace et c'est prêt. Mais c'est ce genre de détails qu'il faut apprendre. Il faut vraiment apprendre à gérer le froid. C'est le plus difficile. C'est pareil, ne pas transpirer, parce que si on transpire, ben, la sueur va geler et c'est l'hypothermie assurée. Donc c'est toujours gérer les couches. Donc on marche, on s'arrête, on enlève une couche, on remet une couche. Et du coup, cette gestion du froid, c'est la clé de la réussite d'une expé polaire.
Alors quand t'as dit je mets un sac plastique, je me suis visualisé avec le sac plastique dans lequel je mets mes clémentines. C'est ça?
Ouais, oui. Ouais, le sac plastique pour lequel on va faire les courses, ouais, ouais.
Après, il y a des systèmes... Pour les pieds, ça passe, mais pour ton corps, c'est compliqué.
Mais pour le corps, c'est soit tu trouves des espèces de bivy bags. Il y a plusieurs marques qui proposent ce genre de modèle. Sinon, ouais, c'est un peu compliqué, mais il faut essayer de trouver des grands sacs poubelles pour les grands conteneurs, ce genre de choses, ouais.
Ouais, je me disais, il y a bien une marque qui a développé un produit pour compenser, enfin pour ce problème-là, non?
Ouais, mais c'est pas un équipement encore qui est, c'est difficile en fait de créer un équipement pareil. Donc c'est en vrai le mieux, ça reste le plastique. C'est un peu triste à utiliser, mais c'est ce qui fonctionne le mieux.
Putain, c'est fou ça. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue qu'il n'y ait pas, tu vois, une marque qui se soit mise sur le sujet, qui résolu ce problème, sachant que tu dois être loin d'être le seul à qui ce problème arrive. Parce que si tu as ce souci-là sur une XP polaire, j'imagine que tous les alpinistes en fait l'ont sur quand ils vont faire un sommet, faire.
Ouais, après, avec les alpinistes en général, vu les conditions, parce que c'est vraiment différent, même s'il peut y faire moins froid, en fait, il y a un gros paramètre qui change, c'est l'altitude, et du coup, la circulation sanguine est complètement modifiée, donc le ressenti du froid est différent, et c'est vrai que les alpinistes, sur les camps élevés, ils dorment pas plus que ça, c'est plus une sieste, un repos qu'une vraie nuit réparatrice. Donc après, je m'y connais pas assez, mais les problématiques sont un petit peu différentes. Et après, il faut qu'on se dise, l'équipement polaire, ça reste un marché de niche. Il n'y a pas 3 millions de personnes qui pratiquent le polaire. Enfin, je dis un chiffre au hasard, peut-être c'est le cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, c'est pas super développé. Typiquement, les chaussures pour les experts polaires, aujourd'hui sur le marché, on trouve 3 ou 4 modèles. On peut pas dire que l'offre soit très développée, donc c'est un marché, je pense, qui grandira dans le temps. Peut-être les marques s'y mettront un petit peu plus, mais pour l'instant, ouais, il y a pas le choix est pas infini.
Ouais, donc quand t'as trouvé ton équipement, t'as pas beaucoup d'alternatives finalement. Quand t'as trouvé, tu le gardes quoi.
Ouais, tu le gardes, oui et non, parce qu'en plus ça reste de l'équipement qui est très cher vu les conditions, mais en même temps vu les conditions, c'est un équipement que tu uses très rapidement. Ouais, c'est les aventures. Des fois, ça peut être du one shot l'équipement.
Bon, et tu veux pas nous dire ce que c'est ce truc secret
Non, si je le garde secret, je pense que ça va arriver bientôt. Je pense que d'ici début décembre, la grande nouvelle sera annoncé, je l'espère.
Justement, ça fait, tu vois, si je publie l'épisode le 25 novembre, tu me fais une petite exclue une semaine avant.
Ah, celle-là, non, elle va être gardée au chaud jusqu'au moment propice, mais ça va être une grosse nouvelle, ouais.
Bon, bah, j'aurais essayé, chers auditeurs, je suis désolé. J'ai pas réussi à lui tirer les vers du nez. C'est quoi l'aventure qui te fait le plus rêver? Tu te dis celle-là, tu sais, la fameuse, si je fais ça, ça y est, je peux mourir tranquille.
Il y en a plein, mais c'est ce que tu disais, tu as pris l'exemple un petit peu plus tôt, c'est qu'on commence à faire quelque chose, la première chose a fait peur, et après on part sur une chose un peu plus grosse, et après une un peu plus grosse, etc., etc. Et on va dire que je fonctionne vraiment comme ça, je me mets un objectif qui pour moi semble très lointain, puis je travaille pour y accéder, et une fois que j'y ai accédé, je me dis, ah ben, peut-être je peux me permettre de rêver encore un peu plus loin. Et on va dire que ce premier rêve, c'était une XP polaire en ski Pulka, et je l'ai faite l'année passée, et c'était magnifique. Et on va dire que là, maintenant, c'était le projet du Hardanger Vida. Et on va dire le projet plus lointain qui sera probablement prévu pour l'année d'après, ce sera le Groenland. Et je pense que le Groenland, ouais, ce sera le jour où j'aurai traversé le Groenland, je pense que je pourrais dire, ouais, je suis vraiment un aventurier maintenant.
Putain, ça va être un sacré truc aussi à faire. Il y a beaucoup qui l'ont fait, ça?
Le Groenland, ouais, ça reste quelque chose de commun, entre guillemets. Mais après, il y a toujours la façon de faire. J'attache une très grande importance à la façon de faire. J'avais la même pour l'alpinisme, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais pour moi, si je prends le cas de l'alpinisme, il y a deux alpinismes. Il y a l'alpiniste qui va aller en sortie guidée, qui va juste suivre. Et puis, il y a l'alpiniste qui, lui, je pense, représente une petite portion de l'alpinisme, peut-être 20-25%, qui va faire l'alpinisme par lui-même. Ça veut dire qu'il va l'idée, qu'il va prendre les décisions, qu'il va prendre les risques, qu'il va préparer la course, etc. Et aujourd'hui, sur l'aventure, on est un petit peu pareil. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur des traversées polaires, sur des aventures à droite à gauche, mais qui le font soit avec une entreprise type tour opérateur, soit avec un guide. Et du coup, il y a moins de personnes qui font les choses par eux-mêmes. Et pour moi, je préfère, pour moi, c'est, il y a beaucoup plus de reconnaissance de faire quelque chose peut-être de beaucoup moins grand, mais de le faire par soi-même, que de le faire en sortie guidée. Je préfère quelqu'un qui va me dire, ben moi, j'ai fait 5 jours de trek par moi-même, que quelqu'un qui va me dire, mais moi, j'en ai fait 35, mais voilà, j'étais avec un guide et tout ça. C'est, mais c'est ma façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne, c'est juste la mienne. Mais
c'est vrai qu'il y a souvent une opposition un peu dans ces façons de faire entre les puristes qui veulent un peu revenir comme si tu revenais aux sources du truc quoi. et puis ceux qui ont alors peut-être des fois moins de temps aussi à consacrer pour l'organisation.
Oui.
Mais comme tu dis, en fait, c'est juste deux façons de faire et l'important c'est de faire.
Ouais, et il y en a pas une qui est bonne, une qui est mauvaise. Chacun a notre propre façon de faire. Et ce qui est important, c'est de se reconnaître là-dedans. Après, le reste, on s'en fiche.
Mmh. Ouais, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à mettre un peu en opposition, mais l'important.
En fait, je sais pas si c'est très français ou si c'est quelque chose tout le monde, mais on est vraiment souvent soit du blanc, soit du noir. Mais en fait, il n'y a pas que du blanc ou du noir. Entre le blanc et le noir, il y a des centaines de nuances de gris. Et en fait, il n'y en a pas une qui est bonne ou une qui est mauvaise. En fait, on a tous des façons de faire. Et c'est ça qui est joli en même temps, c'est qu'on est tous différents.
Après, je crois que ça, c'est des discussions de réseaux sociaux. Tu vois, avant, on aurait appelé ça des discussions de comptoir, mais maintenant, c'est des discussions de réseaux sociaux. Souvent sur les réseaux sociaux, les gens sont soit blancs, soit noirs. Alors qu'en vrai, dans la vraie vie, quand tu parles aux gens en vrai, beaucoup sont comme tu dis dans des nuances de gris, quoi. Il y a jamais personne qui te parle comme on te parle sur les réseaux sociaux, tu vois.
Non, non.
Ça arrive jamais, quoi.
Non. Bon, les gens se sentent protégés derrière l'ordinateur, mais en réel, ouais, c'est pas la même chose.
Tu as des haters, toi?
Non. Non, en vrai, j'en ai aucune idée. Je m'en fiche. Moi, le plus important, c'est de pouvoir me lever, d'être droit avec moi-même, de pouvoir me regarder dans la glace. Et après, le reste, les gens m'apprécient, je suis content. Et puis, s'il y a des gens qui m'apprécient pas, je continue mon chemin et je vais me lever pareil le matin.
Hein. Non, je me disais pourquoi on t'aimerait pas. Enfin, je sais pas.
Il y a toujours des gens, mais c'est pas grave. Il faut. On n'est tous pas à la vie comme toi, il y a des gens qui te critiquent, on a tous ce genre de choses. L'important, c'est d'avoir son cercle, de pouvoir être bien avec les gens, bien avec soi-même, et le reste après. Ça arrive. Hein.
Et sur quoi tu pourrais faire mieux dans tous les aspects de ta vie?
Surtout, on peut toujours faire mieux. Et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est qu'en fait, on peut toujours travailler pour s'améliorer sur tout, et jamais rien n'est acquis.
Et là, si tu y avais quelque chose là en ce moment, là, tu te dis tiens, je suis un peu moins bon là-dessus, là, faudrait que je fasse mieux.
Oh, il y a plein de choses et c'est pour ça que je suis en train de regarder pour me former. J'aimerais bien me former sur du cours survivaliste pour avoir encore plus de connaissances, pour être encore plus compétent. J'aimerais bien me former. On a tous les deux la même expérience de sapeur-pompier, mais quelque chose. J'aime beaucoup le secours et j'aimerais bien me former sur le secours en lieu isolé ou le secours en conditions extrêmes. Donc il y a plein de choses et on peut toujours s'améliorer sur plein de choses. Je l'ai vu encore sur ma dernière aventure. Il y a sur le physique. Je suis en train de me relancer un plan d'entraînement parce que j'ai vu que sur certains points j'avais des lacunes. Donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut toujours travailler sur chaque aventure, on apprend, et sur chaque aventure qu'on prépare, on doit se préparer d'une nouvelle façon, d'une meilleure façon. Donc, c'est infini, en fait.
Tu connais Tony Bush?
Non, ça me parle pas.
Émotion. Je l'ai reçu sur le podcast, épisode 221. C'est un ancien des forces spéciales et qui a créé Émotion. Et qui vend maintenant des kits de soins médicaux et qui c'est un expert dans justement le survivalisme. C'est un ancien commando marine et il a développé ça. C'est un épisode que je te recommande de 221.
Ouais, je note ça.
Et voilà, je pense que vous auriez plein de choses à vous dire tous les deux.
Ouais, et puis moi j'aime beaucoup, je suis passé par l'armée, par les pompiers, et puis j'ai une très grande estime de ces personnes qui ont des carrières comme ça, de force spéciale ou Je suis juste impressionné par ce genre de personne, c'est incroyable.
Ouais, c'est vraiment quelqu'un de bien, Tony. On devait mettre en place quelque chose pour former les sportifs sur les trails, ultra trails, parce que bah, tu vois, finalement le premier secouriste qui est là, c'est le gars qui a le dossard à côté de toi, et si t'as besoin d'aider quelqu'un, faut savoir quoi faire, quand le faire correctement. Donc c'est quelque chose qui avait du sens pour nous, et de mettre ça en place, voilà. Mais bon, j'ai tellement de choses à mettre en place, c'est difficile des fois de trouver le temps et prioriser. Très cool. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter à... Il y a une question, tiens. Est-ce que tu trouves que c'est un épisode réussi?
Tu veux une réponse honnête?
Ah si.
Je me sens pas super super bien avec ce que j'ai pu dire. Je sais pas si j'ai eu un bon discours, si mon message était clair, si les gens vont apprécier ce que j'ai dit, si... Ouais, non, je suis pas super fier de moi-même.
C'est vrai?
Ouais. Mais peut-être que tu... Et j'espère que tu trouveras que l'épisode est chouette. Mais je doute. Tu vois, on a beau faire plein de choses et on peut douter de soi-même et ça empêche pas de continuer à faire les choses. Donc, tu vois, on revient toujours à faut oser, faut se lancer, et peu importe, on peut faire les choses.
C'est le moment de se lancer. Alors, pour la petite, pour l'explication, chers auditeurs, c'est une nouvelle fonctionnalité de mon logiciel avec lequel j'enregistre les épisodes. Et juste avant, je présentais les petits sons qu'il y a à Jonathan, et j'ai dit, si tu balances une punchline, je me lancerai ce son. Ah, j'aime bien. Non, franchement, c'était un très bel épisode. Moi, j'ai appris des choses encore une fois. Mais bon, ça, les juges ultimes, c'est les auditeurs, et ils sont là, fidèles chaque semaine. Donc, ce sera à vous de le dire, chers auditeurs, si vous avez aimé cet épisode. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très sympa. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à notre échange, peut-être pour le clôturer?
Juste pour revenir, ouais, si moi je suis super ravi si je peux avoir des retours de certains auditeurs, de me dire que voilà, je suis, parce que quand tu te lances en tant qu'aventurier, tu le fais pas seulement pour toi-même. Il y a un aspect, comment je peux dire, général, parce que tu le fais. Alors bien sûr, t'as du plaisir dans ce que tu fais, mais tu le fais aussi pour apporter un message, pour apporter de l'inspiration, pour motiver les gens, pour leur permettre de voyager à travers tes yeux. Donc, si je peux avoir des retours sur ça et de me dire, ben en fait, ce job que je fais, ben il a du sens, et puis ben j'inspire des gens, et puis les gens trouvent inspiration, apprécient le message, osent se lancer, m'écrivent, me disant, oh ben j'ai écouté ton podcast et tu sais quoi, ben j'ai été faire mon bivouac alors que j'osais pas avant. Pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Et si j'ai même ne serait-ce qu'un seul message, ben, je pourrais me dire, ben, en fait, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ça a du sens et je peux continuer à le faire, quoi.
En tout cas, il y a besoin de gens comme toi qui font des aventures, qui racontent des histoires. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent sur le podcast. L'être humain a toujours raconté des histoires au coin du feu, tu vois, le petit ancien qui raconte des choses aux jeunes. Et là, on est dans une ère où t'as pas besoin d'être un ancien et raconter des histoires quand même à tout le monde, de faire vivre des aventures, on en a besoin. Et écoute, moi je trouve ça très cool encore une fois de pouvoir suivre des aventuriers comme toi dans vos aventures et dans vos délires que jamais je n'irai faire un jour. Il y en a d'autres qui me font envie, mais alors ça, traverser le Groenland.
Mais tu vois, c'est un échange comme ça avec toi. Pour moi, c'est quelque chose de super inspirant parce que tu viens me dire que, par exemple, quelque chose que je fais, pour toi, c'est la lune. Mais quand tu me dis ça, pour moi, j'ai une image de toi où t'es un sapeur-pompier de Paris, où t'es un ultra-trailer. Et pour moi, c'est l'élite. C'est quelque chose. Waouh, je rêverais de pouvoir faire ça un jour. J'en aurais jamais les capacités. Et je trouve que c'est ça qui est super beau, c'est qu'on peut arriver à se faire rêver mutuellement.
C'est ça, en fait. C'est marrant, ça, parce que t'as, on a chacun nos, ça, c'est un truc qu'on me dit souvent, tu vois. T'étais pompier de Paris, mais waouh! Et en fait, pour moi, bon, ouais, c'était un moment un peu dur de ma vie, surtout des moments de sélection, d'épreuves, d'examens, etc. Mais finalement, bon, c'est plutôt bien passé. Et en comparaison, il y a d'autres choses que certaines personnes vont faire. Et moi, je suis là, bah, comme toi, par exemple, traverser le Groenland, waouh. Et en fait, on a chacun nos trucs comme ça où on peut inspirer et impressionner les autres. Alors, sans être forcément à la recherche de, tu vois, si on a tous besoin d'amour, ça faut pas se mentir. Hein, on a tous besoin de voir que des gens nous aiment. Ça c'est aimer sans forcément se dire ouais j'ai besoin qu'on me dise que je suis le meilleur. Non, c'est pas ça. Le truc c'est que chacun finalement a ses petites victoires. Ses performances par rapport à d'autres, et on a tout ça à apprendre des autres. Et ce podcast est là pour ça. Ces petites conversations de comptoir qu'on pourrait avoir, que j'adore, c'est vraiment ça l'idée de ce podcast.
Non, mais c'est fantastique parce que ça fait des beaux échanges.
Eh ben, écoute, tu vois, pour répondre à ma question, moi, je trouve que c'est un très bel échange qu'on a eu. J'ai appris des choses. On a passé des messages. C'était encore une conversation simple, naturelle, comme je les aime sur ce podcast. Et puis, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Donc, chers auditeurs, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir et à aller envoyer un petit mot à Jonathan. Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on te contacte, Jonathan?
Oh, maintenant on essaie d'être présent un peu partout, mais là où on est le plus présent, ça reste Instagram. Mais on a aussi une page Facebook, on a une page YouTube qu'on est en train de développer. Et puis après on a notre site internet où on va retrouver toutes les informations sur qui on est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose. Et typiquement le site internet, on y a mis beaucoup de cœur, on a beaucoup travaillé parce qu'on l'a réalisé par nous-mêmes. Et du coup, ouais, on retrouve toute notre aventure au sens large là-dessus.
Ah, il est bien fait, votre site, il est clair et il y a toutes les infos. Là, c'est la photo dans la page à propos où je dis que vous êtes un couple de beaux gosses. Tu vas voir, tout le monde va aller voir, hein, du coup.
L'avantage, c'est qu'on a même fait le site en plus en trilingue. On l'a en français, norvégien, anglais.
D'accord, ok. Et puis, à YouTube, c'est aussi au nom de Fico. C'est pas facile à dire, hein, par contre. Pio Kayak.
Eh ben, parfait, tu l'as eu. Pio Kayak, c'est ça.
Mais kayak, Q-A-H-I-A-K. Mmh. Pas comme un kayak.
Mais du coup, il y a la petite explication sur la page à propos, sur pourquoi ce logo et pourquoi ce nom.
Eh ben, plus 100 abonnés sur votre chaîne YouTube, je viens de le faire à l'instant. mes chers auditeurs, je mettrai les liens dans la description et puis n'hésitez pas à aller le faire aussi pour suivre les aventures et puis savoir ce fameux truc secret que Jonathan n'a pas voulu nous partager mais, aujourd'hui. Mais
du coup, être sur YouTube, alors ça prend un petit peu de temps, mais on aura un film qui arrivera sur notre aventure à vélo qu'on a fait il y a un mois. Et puis du coup, ouais, il y aura cette surprise qui arrivera bientôt et je pense que pour le coup, à travers cette surprise, cette grande nouvelle, je pense qu'on pourra se refaire un podcast dans quelques temps parce qu'il y aura encore plein de choses à raconter là-dessus.
Eh ben, écoute, avec plaisir, on va se programmer ça au moins une fois par an pour se caler sur les petites news. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles de mes anciens invités. D'ailleurs, je fais beaucoup d'épisodes d'anciens invités en ce moment. Tu vois, j'ai fait un avec Ronan, Alain Cailleux aussi, Prisca. Les derniers épisodes, c'est beaucoup des anciens invités. Je viens de remarquer ça.
Ouais, c'est agréable au moins d'avoir cette clientèle de fidèles, on va dire.
Carrément.
C'est
carrément.
Toujours un grand plaisir de passer à ton micro.
Eh ben, écoute, c'était un super épisode. Merci beaucoup encore une fois, Jonathan. Et puis, on se dit à bientôt dans un prochain épisode mais pas au Groenland. Hein.
Allez. Non. Mais ça me fera du bien d'être sur des températures un peu plus estivales aussi. Genre, c'est difficile d'être toujours dans le froid.
C'est ça. Allez, à bientôt. Bye bye.
À bientôt.
Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRAIL, PLANETETRAIL. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.